Gloire à Dieu. On a encore un beau message à voir aujourd'hui. Pourquoi que c'est beau? C'est parce que c'est tous des versets qui viennent de la parole de Dieu. Ça, il n'y a rien de plus précieux. C'est comme un... Il dit tout scribe instruit du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Puis on trouve toutes sortes de perles. Il y en a que c'est des perles qu'on est habitué de voir. On les a vues souvent. C'est pas grave. C'est une perle pareille. Même si c'est une révélation qu'on sait déjà, c'est une perle. Ça n'enlève aucunement sa valeur, même si ça fait longtemps qu'on la regarde. Puis il y en a des nouvelles perles qui sont encore d'autres révélations que le Seigneur donne. Des choses anciennes puis des choses nouvelles. On va en profiter encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous sommes encore en train de regarder l'étude sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. Toutes les ça, je sais pas pour vous, mais moi, là, j'y réécoute. Puis des fois, j'y médite, je m'arrête, puis là, je pense à la position que j'ai en Jésus. Puis là, on est rendu, je pense, au 24e ou 25e message. Les idées, si vous voulez les revoir, sont toutes sur Internet dans nos positions, en nos nouvelles positions. Vous allez voir, il y a 25 messages. Puis ça, là, quand tu réalises, c'est pas juste de le savoir intellectuellement, réaliser pour voir la portée de ce que nous sommes en Jésus. On est une nouvelle créature, puis c'est pas des farces. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qu'on a en Jésus-Christ, on n'avait absolument rien avant de venir à Jésus. C'est pour ça que quelqu'un va me dire, « Ouais, mais moi, je vais lâcher ce que j'aime pour aller suivre Jésus. » Ouais, mais t'as encore bien plus à gagner quand tu donnes ta vie au Seigneur. C'est parce que faut que tu le saves. Lui, s'il ne sait pas, il peut pas balancer. Ouais, ça vaut-tu la peine? Juste le fait de dire que tu as la vie éternelle, ça devrait être suffisant d'avoir été péché pardonné. Mais tout le reste, il y a tellement d'affaires que Dieu nous donne en Jésus. Aujourd'hui, on va voir le sujet « Nous sommes grâce au Christ, maintenant assis dans l'autorité de Jésus. » Vous allez voir la portée de ces choses quand on va regarder ces versets-là, puis vous allez voir comment est-ce que on le sait pas, on réalise pas tout le temps, mais on est assis dans l'autorité de Jésus. Connaissez-vous l'autorité et la puissance de Dieu? On s'est-tu déjà arrêté pour regarder comment est-ce que Dieu il est tout puissant? Il n'y avait rien, il a créé tout le monde invisible. Il n'y avait rien, il a créé tout le monde visible par sa puissance, son pouvoir qu'il a de faire ce qu'il veut, comme qu'il veut. Il est Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la puissance de Dieu pour vous? Souvent, on vit des affaires, puis des fois, on peut dire, « Ah, ben moi, j'ai vécu des affaires, mais j'en ai assez. Je me contente de peu. Je suis né pour un petit pain. » Puis j'ai vu un exaucement de prière quelque part dans ma vie, puis j'en demande pas plus. Dieu veut qu'on soit gourmand. Dieu veut qu'on soit gourmand de toutes ses bénédictions. Tout est là, puis il donne un exemple de cela, comme si ça serait une table, qui serait toutes les mets succulents sont là, puis il nous dit, « Sers-toi! » Y en a-tu qui ont faim? Y en a-tu qui veulent voir la puissance de Dieu? Pour y arriver, il faut comprendre ce qui est là, puis après ça, on a juste à se servir. Ce qu'on doit savoir en partant, tout appartient à Jésus. Jésus a de toute éternité, il a existé éternellement, puis il a de toute éternité vécu dans l'autorité suprême de Dieu en tant que créateur. Jésus est là depuis le début, puis tout ce qu'on voit là présentement, ça a tout été créé par lui. Il n'y a rien de ce qui existe. Il n'y a rien de ce qui a été créé, que ce soit les anges, puis les milliards d'anges, puis le royaume des cieux, plus le royaume terrestre, puis l'univers, tout ce que tu vois, tout a été créé par Jésus. C'est ce que ça nous dit dans Jean chapitre 1, les versets de 1 à 3. Ça nous dit, au commencement était la parole. Dans certaines traductions, ça va être le verbe. Ça nous dit au verset 14, et la parole a été faite chair. Ça nous parle de Jésus dans ce verset-là. Au commencement, je vais vous remplacer ça par Jésus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Dieu le Père n'a rien créé sans Jésus. Jésus vit l'autorité suprême de Dieu depuis le début de la création. Même avant la création, dans l'éternité passée. Ils vivaient tous les trois ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant même qu'il y ait quelque chose de créé. Puis, ils étaient bien ensemble, puis ils avaient tout pouvoir, puis ils ont décidé à un moment donné, clac, on crée le monde invisible. Ils ont tous créé les anges. Pour eux, c'était visible, mais c'était invisible à nous, mais c'était visible pour eux. C'est le monde spirituel, le monde des esprits. Il a tout créé ce qu'il y a là. Puis là, après ça, ils ont décidé de créer le monde physique. Puis à notre œil, ça a de l'air infini. Ça nous démontre un peu son pouvoir à Jésus, sa grandeur, sa puissance. Même s'il n'y aurait rien qu'une planète, t'essaieras d'en créer une planète pour le fun. Juste la faire apparaître quand il n'en existe pas. Une! Lui, il a fait apparaître l'univers entier. Ça vous donne-tu une idée de sa grandeur et de sa puissance, de son pouvoir? Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. C'est le Tout-Puissant. Tout-Puissant, ça veut dire qu'il peut toute chose. Il y a une affaire que Dieu trouvera jamais dans sa vie. C'est quelqu'un de plus grand que lui. Il est le seul, l'Éternel. Puis il y a une affaire qu'il fera pas, il n'en fera pas de péché, lui. Il y a des affaires qu'il fait pas. Il est tout puissant, mais il y a des affaires qu'il veut pas faire. C'est Jésus-là, c'est Yeshua, qui c'est son vrai nom, avant qu'il vienne en forme humaine, il s'appelait pas Yeshua, il était comme... Dans l'Ancien Testament, tu le vois comme si c'était quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui vient sur des nuées. On le voit dans des visions, des prophéties, des prophètes de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme qui était là. Mais il était là, mais il n'avait pas encore son identité terrestre parce qu'il n'était pas venu en forme humaine encore. Mais il était là auprès de son Père dans l'éternité, dans l'histoire, avant que ça arrive ou ce qui arrive. Puis, il a décidé de laisser de côté toute sa gloire, parce que les milliards d'anges se mettaient à genoux devant lui, dans le ciel. Les anges de Dieu l'adoraient, puis ils se prosternaient devant lui, puis ils le glorifiaient. Puis il a décidé de tout laisser ça là, pour venir pendant un petit bout de temps terrestre, au niveau de ses créatures. Il est venu comme un simple homme, comme une simple créature humaine comme nous, puis a marché sur la terre, les deux pieds, comme nous autres, sur deux pieds, pendant un petit bout de temps. C'est un Dieu tout-puissant-là, il est venu en forme humaine, il a laissé plusieurs de ses attributs, sa toute-puissance, son omniprésence, c'est d'être partout en même temps. En même temps, c'est qu'il est partout, dans la fin fond de l'univers, comme peu importe, de bord en bord, tout est créé en lui. Il est plus grand que tout l'univers qu'on voit. Bien, il a tout laissé son omniprésence, sa toute-puissance, pour venir, puis sa toute connaissance, il marchait après ça juste selon ce que le Père lui communiquait. Mais il a commencé à zéro comme un petit bébé, pareil comme nous autres. Puis là, il a grandi dans la connaissance, mais il était parfaitement en communion avec son Père tout le long quand il a grandi Jésus. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, à l'égalité d'un simple homme. On voit ça dans Hébreux 2:7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous, au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Jésus a accepté de laisser sa place, tout ce qu'il avait, pour venir dans une carapace d'un corps humain pareil comme nous, pendant un peu de temps, en dessous du pouvoir des anges. Si Dieu aurait laissé faire les choses, il aurait pu être à la merci des anges, il aurait pu le tuer. Mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a interdit. Il aurait pu le tuer, les anges sont bien plus supérieurs en pouvoir que les simples humains que nous sommes. Comme qu'on le voit dans les récits bibliques de l'Ancien Testament, où est-ce qu'un ange pouvait tuer une armée de 180 000 hommes dans une soirée. Ils ont pas, ça les énerve pas. Il aurait pu tuer Jésus, il était faible, comme il est apparu comme une faible plante. Ben, malgré qu'il avait été abaissé en tant qu'homme, Jésus n'avait pas perdu de son autorité. Il parlait encore avec l'autorité de Dieu son Père. Il dit, de qui tu tiens cette autorité-là? Mais Jésus parlait dans le nom de son Père. Il recevait les révélations de son Père, puis il parlait avec une pleine autorité, mais il était animé de quelque chose qui vient de Dieu. Puis ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Puis c'était pas en petite portion que Jésus avait. Jésus est à la plénitude de Dieu. Jésus marcha sur la terre, puis même s'il est en dessous des anges corporellement, ben spirituellement, il l'était pas. Il avait autorité sur les démons, puis toute la puissance des ténèbres. Oui, il aurait pu se faire tuer par un humain, comme ça s'est fait tuer par un humain, mais juste quand Dieu, son Père, l'a permis, pas avant. Mais il était comme protégé. Il avait une mission à faire, puis il fallait qu'il accomplisse sa mission. Mais Jésus, on le voit dans Luc 4, 36, quand les gens le voyaient, il n'en revenait pas de quelle façon qu'il prêchait. Il prêchait pas comme les scribes qu'il y avait dans ce temps-là. Il était en train de prêcher, justement, dans Luc 4, 36, il était en train de prêcher, puis il y a quelqu'un qui était pris d'un mauvais esprit, commence à crier. Lui, il a commandé à l'esprit de sortir, puis le gars, il s'est mis à crier, paf, puis l'esprit a sorti de ce gars-là. Les gens étaient étonnés de voir ce qui se passait. Ils ont dit, tous furent saisis de stupeur, puis ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Même si Jésus avait quitté son trône de toute puissance, il marcha dans une carapace d'un simple homme, il n'était pas un simple homme. C'est encore Dieu à l'intérieur de lui, rempli de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, recevant les directions puis les révélations puis l'onction nécessaire pour sa mission. Là, quand il a nommé sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre libres les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs. Les captifs, c'est pas juste les captifs du péché, c'est les captifs des démons. Les aveugles, il va les ouvrir les yeux, peu importe la maladie, ça dit, guérissait toute maladie, toute infirmité. Il n'y a rien que Jésus n'était pas capable de faire, parce que Dieu était avec lui, il était en lui, merci Seigneur. Mais son abaissement en tant qu'humain a été temporaire, parce que Dieu, une fois que Jésus était mort, il était assassiné, Dieu l'a ressuscité, puis il a donné la place dans le ciel, l'autorité suprême, il a réobtenu toute l'autorité puis le pouvoir qu'il avait avant d'y aller, avant de partir. Il a été remis dans la position d'être assis à la droite de Dieu. Quand tu parles à la droite, là, ça sous-entend dans la force de Dieu, dans tout ce que Dieu est. Quand Dieu, il pogne quelqu'un au collant, même, ça veut dire qu'il y a le bras qui est là, qui tient. Mais il est à sa droite puis il a toute sa puissance. Puis Jésus, après sa résurrection, s'est montré à ses disciples, il dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel puis sur la terre. » Jésus est maintenant assis dans la toute-puissance de Dieu. Il a reçu, il a réobtenu en fin de compte, l'autorité sur toute la création, incluant toutes les créatures. Jésus peut faire ce qu'il veut, avec qui qu'il veut, comme qu'il veut. C'est à lui. Toutes choses ont été faites par lui, en tant que propriétaire, puis en tant que vainqueur aussi sur la mort, vainqueur en ressuscitant des morts, puis tout pouvoir y a été remis, puis c'est lui qui décide, avec son Père, bien entendu. Dans Éphésiens 1, le verset 20 à 22, Dieu a déployé sa puissance, puis a démontré sa puissance, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis maintenant à droite de Dieu dans les lieux célestes. Puis regardez bien ce que ça dit au verset 21. Au-dessus, Jésus est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous les pieds de Jésus. Puis il l'a donné comme pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Puis il a donné aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus a réobtenu la plénitude de la puissance de Dieu. Puis il est placé dans une autorité, il n'y a rien de plus haut que lui. Parce que Paul, il l'explique à un moment donné, il parle qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Ça, c'est comme des hiérarchies qu'il y a dans le monde qu'on est présentement. Mais il y en a dans le royaume de Dieu aussi des hiérarchies. Mais Jésus est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout.
Amen!
Amen! Gloire à Dieu! Puis réjouissez-vous qu'on est sur le bord du plus fort. Gloire à Dieu! C'est important. Faut le dire, faut le proclamer. Faut pas l'oublier. Maintenant, Yeshua, parce qu'il s'appelait Yeshua, Jésus, hein, c'est une mauvaise traduction, mais c'est son alias, c'est un des alias, est maintenant le nom le plus grand de tout ce qui existe et de ce qui a existé et ce qui existera.
Amen.
Dans Philippiens 2, 9 à 11, ça nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puis il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent. Nous aussi, on va fléchir, mais qu'on nomme son nom, on va tous tomber à genoux. Même à l'enlèvement, mais qu'il revienne sur une nuée, puis il va nous prendre, on va tout tomber à genoux devant lui. Seigneur, c'est notre Seigneur, il revient. On ne pourra pas faire autrement que de plier genoux devant lui. Ça va être trop puissant. C'est une majesté, la gloire de Dieu est en lui à plénitude, ça va être... Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel. Ça, le diable y compris, puis les démons, puis tout ce que tu voudras qui a été créé. Tout le monde plie le genou devant Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu, il a révélé son nom dans ce monde. C'est Yeshua, c'est Jésus qui est Dieu. Il a révélé le nom qui sauve. Il y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été nommé parmi les hommes par lesquels on peut être sauvé. Il n'a que le nom de Yeshua, Jésus, le Seigneur. Puis quand on le confesse, ça glorifie Dieu son Père. Il y en a qui disent, moi j'ai Dieu dans ma vie. T'as-tu Jésus? Non, il ne connaît pas, tu n'y appartiens pas. Parce que si t'as pas le Fils, t'as pas le Père. Si tu as le Fils, tu as le Père.
Amen.
Dieu est glorifié quand tu reconnais le Fils et que tu sers le Fils. Amen. C'est ça qui est le but de la création, le but de la révélation. Puis à cause qu'ils ont rejeté le Fils, mais ils meurent dans le péché, puis ils ne pourront pas rentrer où ce que Dieu est présentement. Je l'ai prêché la semaine passée. C'est puissant, là, qu'est-ce que je vous dis là. Même si on le sait, comme je disais, il y a des perles qu'on connaît déjà, mais quand même, les répéter sont toujours belles, ces perles-là. Il faut se réjouir d'on est sur le bord du Tout-Puissant. Faut pas avoir crainte de s'approcher de lui puis d'y demander des affaires. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Il n'y a pas d'autre. Les autres n'existent même pas. Les autres, c'est des faux dieux qui sont pas des dieux de leur nature. Ce n'est que des créatures limitées à un endroit à fois, puis ils peuvent rien faire, sauf de faire du trouble ou ce qu'ils sont. C'est la seule affaire qu'ils font. Mais ça va changer. Ça ne restera pas. Puis Dieu va prendre sa place, puis il va régner sur cette terre, puis tous les genoux vont fléchir devant lui. Ça va être extraordinaire, puis nous autres, on va être contents d'être là, croyez-moi. La Bible elle dit, puis j'y crois. Mais quel est l'effet que cela peut avoir sur notre vie, de savoir que ce Jésus-là, il est ce qu'il est, puis là, on le voit un peu plus dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie personnelle ou dans vos vies personnelles? Mais il est important de réaliser quelle est notre nouvelle position en Jésus à ce niveau-là. Dans Éphésiens 1, 16 à 19, l'apôtre Paul lui dit, là, il dit, moi, là, je prie pour vous autres. Il parle là aux Éphésiens. Il dit, je prie pour vous autres, puis je fais mention de vous dans mes prières afin que notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Puis prie là-dessus, puis on doit prier là-dessus. Seigneur, révèle-nous ta parole. On veut l'approfondir, on veut la vivre, on veut expérimenter ce qui est écrit là. Ça dit au verset 18 qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pour que vous sachiez, on a des choses à savoir, frères et sœurs. Ça va changer nos vies. Quand on apprend des choses de la parole de Dieu, ça transforme notre vie. Ça nous fortifie de la parole. La parole de Dieu nous fortifie dans la foi. Ça nous fortifie dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, puis aussi de ce qu'il peut faire en nous. Puis ce que je peux faire, moi, en lui. Le fait de le savoir, ça va changer ma manière de vivre mes circonstances. Il dit, je prie pour qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez c'est quoi l'espérance de son appel, parce que là, c'est grandiose qu'est-ce qui nous attend. C'est quoi la richesse de sa gloire qu'il réserve aux saints, puis le verset 19, c'est celle que je veux peser aujourd'hui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Quelle est la grandeur de la puissance de Dieu agissante et qui veut agir dans nos vies? Dieu veut pas juste qu'on sache des théories. Il veut qu'on sache qu'on peut vivre des affaires avec sa puissance, des affaires au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on est habitué de vivre. Dieu, il n'a pas de limite, mais il veut qu'on grandisse dans connaissance afin qu'on sache, oui, on sache où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qui nous attend, puis on est content de cela, mais il veut qu'on sache aussi qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie par son bras puissant. Il veut qu'on réalise la puissance qu'il est prête à déployer dans son corps qui est l'Église, dans chacun de nous. Il y a de quoi, frères et sœurs, de puissant qui veut nous faire vivre, puis qui va nous faire vivre parce que c'est écrit, puis on l'apprend. Cette autorité-là que Jésus a, c'est pas pour rien. Il y a de quoi qu'il veut faire dans nos vies. Lorsqu'on va rentrer dans certains petits passages, c'est pas une grosse étude, ça dure juste 3 quarts d'heure, mais ça peut se vivre dans toute une vie, ça peut s'étendre et se multiplier, puis qu'on peut se vivre des affaires extraordinaires. Mais il faut comprendre notre position en Jésus. Qu'est-ce qu'on a droit? Qu'est-ce qu'on a déjà reçu? Qu'est-ce qu'on a le droit de vivre et d'espérer de vivre dans cette vie à cause que Jésus est en nous? Il faut réaliser, frères et sœurs, premièrement, que Jésus a donné de son autorité. Jésus a donné de son autorité à ses serviteurs. Dans Marc 13, 34, Jésus l'a expliqué dans une parabole, puis il dit, « Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne au portier de veiller. » Lui, il partait, comme qui est parti, il y a 2000 ans. Mais il n'a pas laissé ses serviteurs les mains vides. Il a donné l'autorité à ses serviteurs. Il faut réaliser qu'on a déjà, à cause qu'on est né de nouveau, on est devenu son serviteur, mais on a déjà reçu l'autorité du Seigneur. Il nous indique à chacun notre tâche. On a tout le bagage de ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Tout est là. Puis là, il nous ordonne de veiller, bien entendu. Si on s'endort, on passe à côté de beaucoup de choses qui sont importantes. Jésus veut pas qu'on se contente juste de miettes. Il veut nous faire vivre la grosse affaire. Comment ça s'est vécu parmi les apôtres? Mais si on voit ça dans Luc chapitre 1, 9, 1. Luc chapitre 9, le verset 1. On parle de donner l'autorité, là. Donner l'autorité à ses serviteurs. Comment ça se vit, ça? Mais dans Luc, chapitre 9, le verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. C'est déjà donné aux serviteurs. Quand on parle du mot force dans ce verset-là, là, Louis Segond, dans plusieurs versets, a traduit ce mot-là, c'est dynamisme. Puissance, miracle, capacité, force, pouvoir, les moyens puissamment capables. Il nous a donné son pouvoir. Le pouvoir est dans le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est en toi. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il faut le réaliser qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Puis dans l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Il nous a donné le pouvoir. La force dans ce verset-là. L'autre mot pouvoir, c'est l'autorité. Être supérieur, le pouvoir, la puissance, le gouvernement. Être des maîtres sur une juridiction. Il nous a donné la force, l'autorité, la puissance, le pouvoir qui était en lui. C'est son autorité qui nous a remis à ses serviteurs. Ce que Jésus a fait, les apôtres l'ont aussi fait. Un autre mot dans ce verset-là qui dit aussi, il a donné la force et le pouvoir sur tous les démons. Ça veut dire, avec cette autorité-là et cette puissance-là, on a autorité sur tous les démons. On peut chasser tous les démons. C'est pas à nous d'être soumis aux démons, puis de se laisser manger à laine sur le dos, puis se laisser bafouer. C'est à nous à prendre autorité, puis le combattre. On a le pouvoir. On est assis dans les... Mais là, je veux pas le dire tout de suite. Je veux continuer où ce qu'on est rendu. On veut pas bousculer. Dans ce verset-là, force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. Guérir les malades, le mot guérir, puissance de guérir et servir. Parce que le mot prendre soin d'un malade, c'est d'être au service des malades. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. C'est en son nom. Parce que quand on le voit dans Isaïe 53, la mission de Jésus, ça dit, il a pris sur lui nos péchés et nos maladies. Puis si on le retrouve, je ne vais pas faire une étude sur ce point-là tout de suite, mais il faut comprendre que Jésus, il n'a pas juste expié les péchés, il a aussi expié les maladies. À cause de ça, ça permet aux gens de pouvoir recevoir des guérisons. Puis Jésus les distribuait, guérisons. C'est comme s'il distribuait d'avance des grâces qui étaient pour accomplir ce qu'il fallait pour les obtenir. Il l'accomplissait à la fin de sa vie. Mais il pouvait déjà commencer à distribuer guérisons qui étaient un avance sur ce qu'il était pour accomplir en mourant sur la croix. Oui. Il guérissait tous ceux qui allaient à lui, tous ceux qui avaient la foi, qui voulaient recevoir. Il le demandait, puis il recevait. Puis il faisait pas d'exception de personne, peu importe ta race, ta couleur, ta langue, ta cité. Dieu, il aime tous les hommes. Puis il veut que les gens reçoivent de sa part. Puis il veut que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Qu'est-ce que Jésus a fait aussi avec les 70 disciples qu'il a envoyés? Parce qu'il y a, on va dire, oh, mais ça, c'était les apôtres. Oui, les apôtres l'ont eu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec les 70 disciples? C'est à 70 personnes qui suivaient Jésus. Ça dit même pas qu'ils l'ont suivi tout le temps. Il y a un moment donné, ça dit que tout le monde l'a abandonné. Dans Jean 6, 66. Mais il y avait, où, ces 70-là qui étaient là, il les a choisis, puis là, il dit, j'allais y aller partout ce que je dois aller, puis il les a donné sa puissance, la même chose qu'aux apôtres, dans Luc 10, le verset 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, parce qu'ils venaient de faire leur mission, là. Puis là, ils disent au Seigneur, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Chaque fois qu'un disciple du Seigneur prend autorité dans le nom de Jésus puis brise une chaîne du diable dans la vie de quelqu'un, Satan pique une débarque puis il tombe en bas. Peu importe le nom de ce démon-là, pif, il débarque. La puissance des ténèbres est renversée. Ils n'ont pas le choix de reculer. Pourquoi? Parce que Jésus a l'autorité suprême. Son nom, c'est le nom au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout pouvoir. Il n'y a rien de plus puissant que Jésus. Quand les démons entendent le nom de Jésus, tous les démons sauvent en courant. Ils ont peur. Ça, c'est pas à cause que nous, on est quelqu'un. Non, c'est à cause qu'on invoque le nom du Tout-Puissant. C'est extraordinaire. Dans ce verset-là, verset 18, Luc 10, 18, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » 19, « Voici, là, écoutez bien celle-là, il parle aux autres disciples, parle pas aux apôtres, les 70 personnes qui avaient été envoyées. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Si on se fait ravager par un démon, c'est parce qu'on le laisse faire. Parce qu'on a le nom, on a juste invoqué le nom de Jésus en prenant son nom avec autorité, parce qu'on a cette autorité-là. Il dit, je vous l'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia! Gloire à Dieu! Aïe, seulement pour ce temps-là? Parce que le monde, la plupart, ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu, vont dire, « Ouais, mais ça, c'était les miracles dans ce temps-là. » Comme si Dieu y a rabaissé en force, ou comme si les promesses, c'était juste pour un peu de temps. Puis après ça, ben, au bout de 30, 40 ans, Dieu était plus capable. Puis ou que l'Église n'a plus de foi du tout. Non, c'est pas juste pour ce temps-là. C'est encore pour aujourd'hui, pour tout disciple né de nouveau. Quand tu es sauvé, tu reçois le Saint-Esprit. Puis même plus que ça, dans Éphésiens 2, 6, Parce que quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité, tu es à mort, j'ai ta mort, vous étiez mort avant d'accepter Jésus, même si tu es vivant corporellement, spirituellement, on était tous morts, séparés d'avec Dieu. Puis il nous a ressuscités en naissant de nouveau. L'Esprit de Dieu est venu rentrer en nous, ça a ressuscité notre esprit. On est revenu à la vie, mais on ne l'avait jamais été, on est venu au monde séparé de Dieu. Mais on est ressuscité, puis on est devenu un esprit vivant, en communion avec l'Esprit de Dieu. Puis dans Éphésiens 2:6, ça nous dit que c'est déjà fait. Il nous a ressuscités ensemble. Quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité, puis tu as une communion que tu as avec le corps de Christ, parce que tu es greffé au corps de Christ, tu es connecté avec le reste du corps. Tu es maintenant un membre du corps de Christ. On est ressuscité ensemble. C'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fait que quand tu es né de nouveau, tu es maintenant assis à la droite de Dieu dans le nom de Jésus, sur le même siège que Jésus, dans le siège de l'autorité de Jésus. Tu as maintenant, et tu peux exercer l'autorité de Jésus. Ça t'a été donné, pas à cause que tu es beau, pas à cause que tu as de l'argent, pas à cause que tu es plus fin que les autres. C'est à cause que tu as reconnu que Jésus est à mort pour pardonner tes péchés. Tu t'es repenti, tu as cru en son sacrifice. Dieu t'a pardonné, il t'a donné son Saint-Esprit. Tu es maintenant ressuscité avec le reste de la gang, puis nous sommes tous ensemble assis dans les lieux célestes, en Jésus, puis on attend la résurrection de notre corps. Mais on est assis dans son autorité, il faut le comprendre. C'est à nous, c'est déjà remis à ses serviteurs, cette autorité-là. Faut réaliser ce qu'on a, frères et sœurs. Faut arrêter de se laisser manger à l'aine sur le dos par l'ennemi. Nous pouvons maintenant utiliser cette autorité pour combattre afin de marcher dans la victoire. C'est important. Y en a-t-il qui veulent être dans la victoire dans leur vie? Être sauvé, c'est correct, c'est beau, puis merci Seigneur, on est sauvé. Mais dans toutes les circonstances de notre vie, on peut-tu gagner des victoires quelque part? Ou si on va se laisser écraser tout le reste de notre vie? Faut réaliser notre position. C'est un policier, lui-là, sa job, c'est d'arrêter les voleurs. Il marche à la rue, il voit un voleur rentrer dans une banque pour aller voler à la banque. Puis là, il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il sait pas qu'il est déjà formé pour faire ce job-là. Il est armé en plus pour faire ce job-là. Il a l'uniforme pour représenter l'autorité. Il a reçu l'autorité, puis il est assermenté. Il est déjà le gars qu'il faut pour aller arrêter le voleur. Mais s'il croit pas en son identité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être sur le coin de la rue, puis il va se cacher, puis il va avoir peur. Non, son rôle, c'est mon rôle, je suis la police, il y a un voleur là, puis il fonce dans le tas. Puis s'il pense de pas y arriver tout seul, il appelle du renfort, puis il y a une équipe qui débarque, puis là, ils vont, puis ils maîtrisent la situation. Vrai ou faux? Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans l'autorité de Dieu au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Nous pouvons invoquer le nom tout-puissant, l'autorité du tout-puissant et d'écraser les ténèbres, repousser l'ennemi, puis tout ce qui a ses chaînes, ses liens qui essaient de nous arrêter. On les brise dans le nom de Jésus. On rejette ses liens, ses chaînes, ses tentations, c'est tout ce qu'il essaye de faire pour essayer de nous ralentir, de nous écraser, de nous rendre inefficaces. On va réaliser notre position, puis on prend l'autorité. On pense pas tout seul qu'on va y arriver. Call du renfort. Appelle la chaîne de prière, appelle tes frères et sœurs. Il y a du renfort. Puis tout le monde va débarquer, puis on va prendre autorité dans le nom de Jésus, puis on va vivre des affaires. Les puissances des ténèbres vont reculer. On va gagner du terrain. Serviteur du Dieu vivant, Tiens-toi debout, combat pour ton Dieu. Serviteur du Dieu vivant, tiens-toi debout, combat pour ton Dieu. Ne laisse pas ton ennemi te ravir tes promesses. Ne laisse pas ton ennemi te ravir tes promesses. Car tu es vainqueur, ô Fils de Dieu. C'est qui le Fils de Dieu qui est vainqueur? C'est nous! Parce que Jésus nous a déjà donné son autorité et son pouvoir. Il a déjà accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on soit pardonné, pour qu'on marche en communion avec lui, puis qu'on expérimente des victoires. Amen.
Amen.
L'autorité sert pour des petites choses rapides, là. L'autorité sert à combattre contre les attaques puis les tentations du diable, bien entendu. On a tous affaire au diable. Tout le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Ça dit, Jacques 4-7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Tu as juste besoin de dire non, ça fait, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de t'en aller. C'est ça que Jésus a dit quand il s'est fait tenter. Puis même quand il a parlé à travers de Pierre, l'apôtre Pierre, il a dit une parole qui n'était pas de Dieu. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, faut le faire. Son, il dit pas. C'est comme un enfant qui est tannant, puis il dit pas de rester assis, ça, tranquille. Là. Tu le laisses faire, tu le laisses faire. Paf, il dérange. Puis là, mais c'est un moment donné, faut que tu dis, c'est correct. Là, il assis-toi là. Oui, ça en donne un pouce, il en prend un pied. Puis là, je dis un pied, c'est quasiment trois, là. On peut résister aussi contre, puis de résister parce que l'autorité du Seigneur nous permet de rejeter les attraits des péchés du monde. Tu parles des choses qui t'attirent dans le monde. Comme un exemple, là, c'est parce que Pierre, quand il arrive devant le gars, Simon le magicien, puis lui, c'était un gars qui attirait foule, puis il faisait des faux miracles, c'était un magicien. Puis le monde disait, c'est la puissance de Dieu. Puis là, à un moment donné, Philippe, il arrive là, dans cette ville-là, puis le gars, il se convertit avec d'autres personnes. Puis là, les apôtres débarquent, puis ils commencent à prier pour les gens reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Lui, il regarde là ça, puis il était étonné, puis il dit, il sort son portefeuille, « Hey, il pensait d'acheter ça, lui-là. Hey, donne-moi ce don-là à qui j'imposerai les mains, ils vont tous être recevoir le Saint-Esprit. » Pierre, c'est une tentation du monde, ça. Il ne faut pas oublier que il a fallu que Pierre réalise things. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant de Dieu, puis il était connecté, puis il a détecté un attrait d'une tentation de faire de l'argent avec le nom de Dieu. Il aura pu en profiter. Notre bourse s'en vient à sec. Hein? Combien tu me donnes? C'est une tentation. Lui, il a rejeté cette tentation. Il dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé que le don de Dieu s'acquierait à prix d'argent. Il était capable de dire non, puis de rejeter sa tentation. Y en a-tu des tentations qui nous tentent des fois puis ça nous fera pécher devant Dieu? Faut être capable de dire non. Mais l'autorité que Dieu nous a donnée, nous l'a donnée, la même chose qu'à Pierre, pour être capable de dire non au monde. Dire non au diable, mais même le monde, quand c'est du monde qui vient de nous tenter, faut être capable de dire non. On arrête ça là. T'as une occasion de sauter à la clôture, sexuellement parlant. Arrière de moi, Satan, je refuse, je suis un enfant de Dieu, comme, comment il s'appelle, celui qui est allé, il était esclave de il s'est ramassé en prison. Joseph, sa femme à son boss, elle l'achala pour aller coucher avec. Il dit, il s'est sauvé en courant. Assez vite que son côte a tombé là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être capable de résister. Faut réaliser qu'on a l'autorité de dire non. On a la capacité de dire non. On n'est pas obligé d'embarquer dans ces affaires-là. Amen. Puis l'autorité combatte contre les liens des péchés dans notre corps. Des choses qu'on sait que c'est des péchés. On a aussi l'autorité pour combattre contre notre chair. Dans Colossiens 3, 5 à 8, ça nous dit à nous, pas, ça dit pas que c'est Dieu qui va le faire. Ça nous dit à nous, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres, c'est nos corps qui ont des passions sur le péché. Faites mourir ça. C'est pas demandé aux autres. Pourquoi qu'il nous le dit à nous, faites donc mourir? C'est parce qu'on a reçu, en Jésus, l'autorité d'être capable de dire non à nous, de pas tomber dans nos péchés sexuels, les péchés de la gourmandise, de l'ivrognerie, des choses qui sont pas de Dieu. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de prendre une bière, c'est de l'abus. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Autrefois, on marchait dans ces péchés-là. Mais maintenant, verset 8, renoncez à toutes ces choses. Renoncer, c'est qu'on a l'autorité de dire, je renonce, je rejette. Parce que Jésus a accompli ce qu'il fallait pour que je puisse devenir libre. L'autorité, c'est pas juste contre le diable. Oui, contre le diable, contre le monde, contre nos appétits, nos tentations, nos attraits, nos convoitises, ce qui pourrait déranger notre communion avec Dieu. Il dit renoncer à toutes ces choses, puis là, il rajoute à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Là, il les a pas toutes nommées, mais renonçons en disant non. T'as l'autorité. Nous pouvons combattre de plusieurs manières. Parce que nous avons l'autorité et la puissance de Dieu qui agit en nous. Faut le réaliser qu'il est en nous. On peut combattre. La Bible nous exhorte, comme dans plusieurs passages, de rejeter, de résister, de refuter, de refuser, de chasser, d'éloigner, de repousser, d'écarter, de défendre, de condamner. Puis j'en ai nommé quelques-uns. C'est une action volontaire de ta part à dire « ça fait ». C'est pas juste Dieu qui fait les choses. Dieu, il t'a donné son onction, sa puissance pour être capable de dire « c'est assez ». C'est à nous de rejeter, de résister, de refuter, de refuser, de chasser, d'éloigner, de repousser, d'écarter, de défendre puis de condamner des œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pas un autre qui le fait à notre place. C'est à nous à le faire. Marchons vers les victoires, puis gardons ses promesses. Dans Éphésiens 6, 13, le dernier verset. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on n'a pas déjà tout surmonté, sachons qu'on peut arriver à être dans une vie de quelqu'un qui a tout surmonté puis qui tient ferme. Si tu n'as pas déjà tout surmonté, ça nous dit, résiste dans le mauvais jour. Dis non, tu as l'autorité, chasse ça, repousse, condamne, résiste. C'est un travail à faire, puis c'est de même qu'on va être dans la victoire, puis qu'on va la garder, cette victoire. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous excite, qui nous encourage à utiliser l'autorité que tu nous as donnée pour saisir nos victoires. Seigneur, merci de cette autorité qu'on a en Jésus. Apprends-nous à manier l'épée, à manier les versets, en basant notre foi sur tes écrits, tes promesses. On veut remporter les victoires dans nos vies, puis on veut marcher en plus que vainqueur. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies par ta puissance qui agit en nous. On te remet nos ventres et tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.